Radio Bonheur, 100% chanson française.
Après la voyance, comme tous les lundis soirs, vous avez rendez-vous en direct sur Radio Bonheur avec les déchaînés du football. On a failli attendre les déchaînés du football avec Pierre-Henri Dufay aux anges ce soir. Bonsoir Pierre.
Yenin Bakoto, la 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 la, j'ai ce chant dans la tête depuis hier, 16h48. Voilà, bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. C'est le chant du Cop Rouge pour saluer le buteur guingampais hier. Quel buteur, voilà, on a presque tout dit déjà sur ce but magnifique qui vient à un moment crucial parce qu'il n'y a pas eu de coup d'envoi après ce but-là de Yenin Bakoto. On va y revenir bien sûr dans ce magazine, on reviendra donc sur ce derby Rennes-Guingamp côté Guingamp, côté Rennes aussi avec Fabrice Pinel, notre ami journaliste rennais qui sera avec nous au téléphone dans quelques minutes. Et puis bien sûr, on sera avec Christophe Mandane au téléphone pour l'invité ex-EAG avant de conclure ce magazine en rendant hommage à l'équipe de Lannion qui est en train de tout casser en ce moment en National 3, qui a gagné 5-0 ce week-end. On y reviendra enfin.
Bravo aussi à Saint-Brieuc, en National 2.
Bien évidemment, mais Saint-Brieuc, c'est depuis le début de la saison. Là, Lannion, ils sont en train de se secouer. On saura pourquoi en fin d'émission. On parlera un tout petit peu aussi de Granville, notre équipe Radio Bonheur que l'on suivra eh bien, mercredi lors de son 8e de finale de Coupe de France. On revient donc en long, en large et en travers sur ce Rennes-Guingamp. On va bien évidemment commencer par ce qui a conclu ce derby, c'est-à-dire ce but de Nbakoto. Alors, vous allez forcément réentendre les commentaires d'hier, mais surtout, on l'a illustré avec les explications, le témoignage de l'homme par qui tout est arrivé, Yenin Bakoto.
Il y a Sarr qui est tout seul au deuxième poteau. C'est Blas qui va y aller. Le corner de Bourigeaud au deuxième poteau. C'est vers Sarr justement. Le ballon qui traîne. Sortez là, bon sang. Voilà qui est fait avec Blas.
Bah, une fois en fait qu'on récupère le ballon après le corner et que Ludo il a le temps de voir mon appel. Il met un très très bon ballon et j'ai juste à passer le défenseur qui était. J'étais en 1 contre 1 avec le défenseur donc je l'ai pris de vitesse et je vois le gardien qui est très avancé donc je décide juste de la lober.
Blas toujours, Blas qui envoie le ballon en direction de Yenin Bakoto et s'il allait le jouer ce ballon dans la surface, Bakoto qui frappe.
Oui, je vois très vite en fait dès au partir du moment où je prends le défenseur de vitesse et que j'ai le temps d'ajuster mon ballon, je vois que le gardien il était face à son but et qu'il courait vers son but donc je me suis dit le lober tout simplement parce que essayer de cadrer.
Qui frappe et qui va et qui va et qui va. Yenin Bakoto dans le temps additionnel qui permet à Guingamp de s'imposer ce soir au Roazhon Park.
Ouais, devant les supporters qui sont venus nombreux et qui nous ont encouragés du début à la fin. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de bruit cet après-midi donc on les a beaucoup entendus et c'est en partie aussi grâce à eux qu'on a fait un gros match cet après-midi.
Ouais, on va se souvenir de ce but d'Nbakoto hein, qui délivre les Guingampais en fin de match. Et puis quel scénario quoi, la 92e, on n'a même pas le temps de réengager après ce but. C'était vraiment en toute fin de rencontre. Est-ce que vous aviez votre chronomètre pour savoir combien de temps réellement il restait?
Oui, et je me souviens que je l'ai arrêté, je ne sais plus quand, mais à 1:36. Et j'ai cru revoir un petit peu les images du but. Le but a été inscrit à 1:20 de temps additionnel. Il y avait 2 minutes de temps additionnel. Ouais. C'était pas la dernière seconde, mais c'était pas loin.
Ouais,
quand même.
Il ne restait pas beaucoup quand même. Hein.
Ouais, pour les Guingampais qui se font une spécialité de marquer dans le temps additionnel, parce que Guingamp est l'équipe qui a gagné le plus de points cette saison dans le temps additionnel. Il y a eu 6 points de gagné. 2 contre Lille avec le but de Dido en début de saison, 2 avec Briand contre Saint-Etienne, souvenez-vous, où il s'était jeté sur un canapé, et 2 donc hier. On dit 2 et non pas 3, parce que si Guingamp n'avait pas marqué hier, il y aurait eu 1 point. Donc voilà, c'est 2 points de différence à chaque fois, 2 fois 3, 6, et donc les Guingampais qui brillent dans cet exercice cette saison, et ça a rendu tout le monde heureux, et dans un premier temps, évidemment, l'entraîneur Antoine Comboiré.
Comme on dit, c'est ce qui fait la beauté de ce sport, être capable
dans les arrêts de jeu, même pour ne pas dire dans les dernières secondes, marquer un but qui vous donne les 3 points de la victoire, surtout face à votre ennemi juré. Donc c'est un beau cadeau qu'on se fait nous d'abord, et puis après un beau cadeau qu'on fait à tous nos supporters de Guingamp. Voilà, il n'y a pas plus beau, parce que faut se souvenir que l'année dernière, on avait vécu le côté cruel, on avait pris un but à la dernière seconde. Donc on leur a relevé la monnaie de la pièce. C'est parfait.
On leur a rendu la monnaie de la pièce, c'est vraiment une belle vengeance pour les Guingampais et pour les supporters aussi, oui, que de prendre les 3 points comme ça sur le fil.
Oui, parce que, et même pendant le direct, on vous en parlait, personnellement, quand on est arrivé dans le dernier quart d'heure, je redoutais tellement cette fin de match et que l'on subisse ce qu'on avait déjà subi l'année dernière. Et en plus, c'était un petit peu la même action, parce que il y avait un coup à jouer pour Guingamp dans le camp de Rennes. Guingamp avait perdu le ballon et en 2-3 passes, les Rennais avaient remonté tout le terrain et avaient marqué à la dernière minute. En plus, Guingamp était à 10 contre 11, donc c'était vraiment une grosse déception pour les Guingampais. Ils s'en souvenaient, Comboiré s'en est souvenu dès qu'il est rentré au vestiaire après le match, et tout le monde, je peux vous dire, alors on ne l'a pas vu à la radio, mais pour les voir chaque semaine, je peux vous dire qu'il y en a certains qui avaient des étoiles dans les yeux après ce scénario de folie en fin de match. Et en premier lieu, on va l'écouter, Nicolas Benezet.
C'est magique, franchement, on joue au foot pour vivre ces émotions-là. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, je suis vraiment heureux de l'avoir fait. Quand on voit partir Yeni, on se dit qu'il n'avait pas frappé. Dès qu'il frappe, c'est la délivrance, c'est une émotion, je sais pas. Ça va être mieux qu'une demande à la mariage, je crois, j'ai jamais fait, mais non, c'est vraiment magique. Et en plus, ça arrive dans un derby, ça arrive à Yeni qui est nouveau, donc c'est rien de mieux.
La demande en mariage, quand même, ça va peut-être rester, ça.
Ah, peut-être. En tout cas, on l'a vu dans toute la presse aujourd'hui, on l'avait entendu aussi hier, mais voilà, c'est ça, c'est parce que aussi c'est un moment où Rennes obtient un corner, donc on se dit que c'est Rennes qui allait avoir la balle de match. On s'imaginait presque le perdre, ce match.
Ouais, c'est sur le contre, c'est sur le contre, voilà, très rapidement joué par les Guingampais que Guingamp marque ce but.
Ouais, ça s'est joué en 5-6 secondes parce que le ballon est récupéré dans la surface par les Guingampais. Blas sort avec le ballon de la surface et puis il envoie un long ballon. Et il faut saluer aussi le ballon de Blas parce que à ce moment-là du match, il reste 40 secondes, vous êtes dans votre surface. Combien de joueurs auraient balancé, comme je dis souvent, un sauciflard en tribune, voilà, un grand ballon en tribune pour ne pas te prendre de risque. Non, Blas, il a pris le risque de sortir de la surface balle au pied. Et d'envoyer un ballon vers Mbakoto, parce qu'on voit que c'est ce qu'il veut faire. Il balance pas un ballon au hasard à Ludovic Blas, il le met en profondeur. Après, c'est vrai que c'est Mbakoto qui fait la différence. Et hier, sur le Canal Football Club, nos amis de Canal Plus ont jugé la distance depuis laquelle Mbakoto a tiré par rapport au but. Il était à 33 mètres du but. Et il ne contrôle même pas. C'est ça qui est fabuleux aussi.
Encore
c'est
plus que ce qu'on pensait. Hein. On disait à plus de 20 mètres parce qu'il était en dehors de la surface. Donc ça,
mais en fait, il est décalé. Il est quasiment à l'angle de la surface, en fait. Donc il est vraiment décalé. C'est vrai que c'est une conjonction quand même de circonstances. C'est comme l'année dernière où du côté de Guingamp, on avait pesté contre le mauvais placement de la défense de Guingamp. Là, c'est vrai qu'il y a aussi une mauvaise défense de Rennes, parce que déjà, il n'empêche pas Blas d'envoyer le ballon au départ. Il y a Gélin qui se fait prendre de vitesse par Mbakoto. Il y a le placement du gardien qui n'est pas bon non plus au départ. Mais voilà, Guingamp a merveilleusement joué cette action et Rennes l'a pas bien joué aussi. Mais en tout cas, voilà, ça n'a pas altéré la joie des Guingampais. On va écouter tout de suite la réaction de Jordan Ikoko à propos de la nouvelle recrue buteur hier, Yeni Mbakoto.
On me dit que les supporters vont pas l'oublier de sitôt. Marqué dans un derby, c'est surtout le but de la victoire à la dernière minute. Je pense qu'ils vont pas l'oublier. C'est tant mieux pour toute l'équipe, pour nous et surtout pour les supporters qui ont fait le déplacement, qu'on remercie énormément.
Oui, marquer dans un derby, c'est important. Marquer le seul but du derby, c'est encore plus important. Et en plus, à la 92e, évidemment,
et en plus,
ça va marquer.
Ouais. Parce que je trouve personnellement que les victoires dans un derby sont beaucoup plus fortes à l'extérieur. Voilà, à domicile, on se dit, bon, on est chez nous, c'est presque normal de gagner. Mais à l'extérieur, le faire, c'est quand même impressionnant pour les Guingampais qui le font de plus en plus ces derniers temps. Je vous dis pas tous les chiffres parce que ça sera l'objet de la rubrique de demain sur Radio Bonheur Guingamp qui gagne de plus en plus à Rennes ces dernières années. On va avoir dans quelques instants au téléphone Fabrice Pinel, mais juste avant, on va reparler d'une action de ce match. C'était à la 42e minute de jeu. Bon, on l'a pas vécu en direct parce que je vous l'ai dit, avec mon genou, j'ai touché la prise, ce qui fait que ça a débranché notre installation.
Oui.
Mais à Rennes, voilà. À Rennes, faut pas mesurer plus d'un mètre 80. Voilà. Je suis 1m91, j'ai ripé et voilà. Mais ce qui s'est passé donc sur cette action, c'est que Coco entre sur la gauche de la surface. Il est déstabilisé légèrement par Gélin, le défenseur central rennais. Il tombe. L'arbitre siffle pénalty, mais à la surprise générale, même nous, Guingampais, on a été surpris de voir Monsieur Buquet siffler le pénalty. Et puis, au bout de quelques secondes, eh bien, il s'est déjugé lui-même, Monsieur Buquet. Il est d'ailleurs allé nous voir en zone mixte après le match. On va vous donner sa version dans quelques instants, mais avant, on écoute Jordani Coco, le défenseur Guingampais, à propos de cette action polémique.
Moi, j'étais pas près de l'arbitre, mais apparemment, il a dit. En revoyant les images dans sa tête, je crois qu'il s'est dit qu'il n'y avait pas faute. Et bon, les joueurs de Rennes lui ont mis la pression aussi, ça a joué. Je pense que sur ce coup-là, on était un peu naïf. On aurait dû aussi nous lui mettre la pression. Et bon, on va pas se contenter de ça. On a oublié à la mi-temps et on est reparti de l'avant.
Mmh. Ouais, c'est ça. Jordani Coco dit que les Guingampiens ont été un peu naïfs.
L'arbitre s'est laissé influencer. Je pense qu'il a lui-même hésité pas mal et peut-être qu'avec la pression des Rennais qui évoluaient à domicile, ça a peut-être provoqué le déclic qui a provoqué l'annulation. On ne sait pas en tout cas.
Lui, en tout cas, il est allé nous voir en zone mixte après le match, Rudy Buquet, et ça, c'est vraiment à saluer parce que les arbitres peuvent faire
des
erreurs.
Et qu'est-ce qu'il a dit
s'exprimer là-dessus, c'est bien. Eh bien, il a dit tout simplement que. Il avait agi sous le coup de la précipitation. Il a, comme Jordani Coco le disait, il a refait un petit peu l'action dans son esprit.
Ouais.
Et voilà, il s'est rendu compte que le penalty ne s'imposait pas. Il a eu raison au final. C'est une bonne décision, mais c'est vrai que c'était presque un coup de poignard pour nous Guingampais de voir le penalty accordé puis refusé. Et bon, après, comme on dit toujours, le penalty, il faut le mettre. L'année dernière, Rennes obtient un penalty très litigieux contre Guingamp aussi à Rennes, mais Johnson l'avait arrêté. Et puis finalement, Guingamp a gagné ce derby, donc on s'en fiche de cette action-là au final. Et voilà, il s'est donc déjugé. C'est la première fois qu'il y a peut-être un cas d'arbitrage vidéo dans l'esprit de l'arbitre. Finalement, il n'y a pas eu d'image. Nous, on pensait à un moment que c'était son assesseur, soit son juge de touche, soit le quatrième arbitre. Et en fait, non, c'est lui-même qui est revenu sur sa décision. C'est honnête de l'avoir reconnu pour Monsieur Buquet, qui est l'un des meilleurs arbitres de Ligue 1. Est-ce qu'on passe tout de suite à la première pause réclame. Et juste après, on invitera et on accueillera Fabrice Pinel, notre collègue journaliste rennais, pour parler aussi des Rennais sur ce derby.
À tout de suite.
Meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais.
Allô patron ? Bon ben...
On est dans les choux, c'est ça ?
Dans le chou-fleur, oui. Ouais, je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, le chou-fleur est à 99 centimes pièce.
Non !
Si patron, moins d'un euro la pièce et origine France en plus. Enfin, le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire.
Et ça te fait rien ? Les soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues.
Pardon patron, désolé mais on est mal.
T'as arrêté ?
Oui, mais là on est très mal, hein.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, origine France. Noroto.
Question. Pourquoi Noroto garantit les prix les plus bas sur tous les pneus, toutes les dimensions et surtout toute l'année?
Bah parce que rouler en sécurité, ça doit pas être une question de promo.
Chez Noroto, tous les pneus sont garantis en permanence au prix les plus bas. Sinon, Noroto vous rembourse la différence.
Noroto.
Conditions en centre et sur noroto.fr.
Alors, il vient d'où ce Lucas?
D'un cours de cuisine mythique. On apprenait à faire un plat thaï. Au début, je l'avais pas remarqué, mais à un moment, il s'est approché de moi les yeux embués pour me dire « C'est super épicé !» C'est bête, mais sur le moment, ça m'a fait pleurer de rire.
Les belles histoires commencent souvent par un détail. Partagez de bons moments et rencontrez-vous aux événements mythiques.
TF1, les bracelets rouges, la nouvelle série événement qui a bouleversé la presse. Un bijou, selon Allociné. Un concentré d'émotions, le Parisien aujourd'hui en France. La série coup de cœur pour télé loisirs. Inédit, les bracelets rouges, ce soir à 21h. Une création TF1.
Moi, ce que j'aime, c'est patienter des heures à l'aéroport quand ma réunion se termine plus tôt. Surtout, je ne change pas mon billet. Et du coup, je m'occupe. Je refais ma valise en chronométrant mon meilleur temps. C'est tellement drôle.
Si, comme elle, vous n'aimez pas changer votre billet sans frais, alors le billet Flexi d'EasyJet n'est pas fait pour vous. Billet Flexi, l'offre business d'EasyJet à partir de 96 euros. Voir conditions sur EasyJet.com.
Leclerc. Leclerc.
Chérie, ta mère vient toujours déjeuner dimanche.
Bah oui, pourquoi ?
Je nous ai pris chez Leclerc une caissette de rhum steak à rôtir, une viande racée française que vous m'en direz des nouvelles. Là, on est sur de la super viande, hein, et à prix Leclerc.
Du 30 janvier au 10 février chez Leclerc, la caissette d'un kilo minimum de rhum steak 3 étoiles à rôtir, origine France, est à 12,45€ le kilo. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Du rhum steak en caissette d'un kilo à ce prix-là.
Idéal pour un repas de famille.
De qualité. La famille et le repas.
Retour du magazine des déchaînés du football en direct, 19h20. C'est Guingamp qui a gagné le derby d'hier après-midi, d'hier dimanche. Et quel scénario difficile pour les Rennais, Pierre.
Oui, on va plus le dire trop fort maintenant que les Guingampais ont gagné le derby, parce que on est très heureux du dénouement. C'est fabuleux quand on est du côté de Guingamp, mais il faut quand même reconnaître que c'est énormément cruel pour les Rennais d'avoir perdu ce derby, de par leur prestation, de par le scénario aussi. On va en parler tout de suite avec Fabrice Pinel. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Comment vous avez accueilli cette défaite? Est-ce que comme vous, parce que moi c'est l'image qui m'a vraiment marqué hier, peut-être presque plus que le but de Nbakoto, on a vu beaucoup de joueurs Rennais à terre sur la pelouse et rentrer presque immédiatement au vestiaire. C'était un coup de massue pour vous le but de Nbakoto hier?
Ouais, bah les joueurs ont beaucoup donné. Ils étaient un peu dans l'état d'esprit des supporters à la fin du match. C'est complètement abattu par ce dénouement, parce que à un moment donné du match, on se dit qu'on va peut-être pas réussir à le gagner, mais à aucun moment on imagine qu'on puisse le perdre, et encore moins à la 92e. Donc voilà, c'est difficile à encaisser, il va falloir rebondir là-dessus. Mais soirée difficile, enfin fin d'après-midi difficile.
Super. Ouais, puis au final une semaine étrange pour Rennes, parce qu'il y a 3 défaites consécutives, celle où à Dijon où Rennes était complètement passé au travers, le sursaut magnifique contre le PSG avec simplement la défaite 3-2. Et puis cette défaite contre Guingamp qui se joue à pas grand chose. Vous étiez pas loin de bien basculer. Et puis finalement, le bilan n'est pas bon. Est-ce qu'il y a quand même un petit peu d'optimisme dans vos rangs après cette semaine à 3 défaites?
Le signal d'alerte, ça a été le match à Dijon où, comme tu l'as dit, l'équipe est passée à côté. Mais derrière, justement, le Stade Rennais a mis les ingrédients, je pense, autant contre Paris que contre Guingamp dimanche, pour être à la hauteur des événements. Seulement, le foot, c'est marquer des buts et ne pas en prendre. Et à ce niveau-là, autant contre Paris, on en a pris trop. Autant contre Guingamp, on n'a pas réussi à marquer et on a pris le but qu'il fallait pas prendre. Donc voilà, c'est un problème de réalisme, mais difficile de reprocher des choses à l'équipe sur cette semaine de compétition.
À quel moment,
à part le match à Dijon.
Oui, bien sûr, évidemment. À quel moment il se joue, Fabrice, ce derby hier? Peut-être dans le premier quart d'heure où Rennes fait un début canon, où Guingamp est sauvé par Johnson. C'est là que ça se joue?
Je vois 3 faits marquants. Il y a le début de match où on démarre fort, ce qui est assez rare, puisque depuis l'arrivée de Sabri Lamouchi, le Stade Rennais n'a marqué qu'un seul but en première mi-temps, en championnat. Donc c'est rare les débuts canons comme ça. Donc il y a ce moment-là où Rennes fait pas la diff. Malgré tout, ça doit être au niveau de la dernière demi-heure où il y a plusieurs actions qui s'enchaînent devant le but de Johnson, avec notamment un raté de notre nouvel attaquant Diafra Sakho. Et puis le troisième tournant, bien sûr, c'est la dernière action où on se découvre vraiment en se disant que c'est le corner de la dernière chance. Et puis à aucun moment on imagine que le compte puisse faire mouche, et puis c'est ce qui est arrivé. Voilà les 3 faits marquants selon moi, ce match-là.
Alors on a entendu tout à l'heure Antoine Comboiré nous dire hier que il a tout de suite repensé au scénario de l'an passé. Est-ce que vous en êtes souvenu aussi de ce but de Diakabi? Parce que c'est 2 scénarios similaires, mais pas du tout dans le bon sens pour Rennes sur ce coup-là.
Pour être très franc, abattu par ce but terminal, j'ai pas pensé à l'effet inverse de l'an dernier. C'est quand justement tu me l'as dit dans l'escalier que je m'en suis souvenu.
Oui. Voilà. Ouais, parce que au final c'est l'histoire du football aussi. Un coup on est
un
très
coup,
déçu
un coup,
et l'autre voilà. C'est
à la différence près que l'action victorieuse de Guingamp est sublime cette année, là où l'an dernier Rennes avait marqué sur une action collective bien inspirée, mais bon
c'est une superbe action l'année dernière la finition de Diakabi est moins bonne,
est moins significative, on a eu une action de sublime. Quand on est grand-père, on doit savourer. Quand on est Rennais, voir cette action là à la 90e plus 2, ça fait mal.
Un mot, Fabrice, parce qu'on a vu ça un petit peu. Est-ce que vous considérez que c'est un hold-up de Guingamp hier?
Un hold-up, non, parce qu'on sait qu'en règle générale, les équipes qui sont à l'extérieur subissent plus qu'elles ne jouent. Mais ça, c'est toutes les équipes, quasiment, hein, à part Paris, qui peut se permettre de dominer sur tous les terrains. Donc un hold-up, non, parce que dans ces cas-là, des fois, quand on n'arrive pas à marquer, on est toujours sujet à prendre le but qui fait victoire en face. Hein. C'est pas une première. Par contre, dans un derby, bah, c'est spécial. Mais hold-up, peut-être pas, même si je pense que sur l'ensemble Rennes méritait la victoire. Il faut marquer les buts pour y arriver à obtenir ces victoires-là quand c'est serré, quand c'est tendu. Et Stade Rennais n'a pas su le faire hier. La faute à pas de chance, la faute aussi à un grand Johnson en face, et puis la faute à une dernière action bien inspirée des Guingampais en paix.
La faute à un Johnson et aussi à un Christophe Carbrat qui a sauvé un moment Guingamp sur l'action de Diafra Sacco. Oui. Dominique, on va passer au son numéro 7, le son où Christophe Carbrat nous explique son sauvetage, parce qu'il est coutumier du fait, Christophe Carbrat. C'est pas la première fois où il sauve la patrie costa-mauricaine. Alors du coup, on lui a demandé comment ça te vient à l'esprit, Christophe, de te mettre des fois derrière Calais Johnson. Sa réponse.
Je sais pas, ça arrive de temps en temps. Je me dis, peut-être que je serais plus utile derrière Calais si jamais... Il arrive à être battu, donc voilà, ça a marché pour moi aujourd'hui, et voilà, tant mieux pour l'équipe.
C'est pas la première fois avec Carbrat que ça arrive, ça.
Ouais, je me souviens d'une action, il l'a fait au mois de décembre, je sais plus contre qui, mais ouais, nous en est déjà fait deux ou trois, hein, Christophe Carbrat, cette saison. Fabrice, un dernier mot, parce que vous m'aviez montré ça avant ce match. Guingamp, hier, sur un simple match de Ligue 1, a récupéré, entre guillemets, un titre honorifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, c'est à l'échelle nationale, il existe le bâton de Bourbotte. C'est un bâton que se transmettent les équipes de Ligue 1, avec le premier détenteur qui le transmet à l'équipe contre qui il perd. Donc à l'échelle de la Bretagne, j'ai fait la même chose. Donc il s'appelle le bâton de Guillot. Guillot parce que c'est le nom du capitaine, le premier capitaine à avoir porté ce bâton, c'est-à-dire le capitaine du FC Nantes d'il y a une cinquantaine d'années. Et donc sur chaque duel de Ligue 1 entre clubs bretons, ce bâton va de main en main. Donc au match aller, Guingamp l'avait piqué à Rennes qu'il possédait. Rennes l'avait récupéré contre Nantes qui l'avait piqué entre temps à Guingamp, et là donc Guingamp le reprend à nouveau des mains du Stade Rennais. Donc voilà, c'est un bâton virtuel mais qui met une petite compétition entre clubs bretons.
Bon, là du coup on l'a jusqu'à la fin de saison, parce qu'on va plus jouer ni contre Nantes ni contre Rennes.
Exactement.
Ah bah, vous avez, voilà, inscrire au palmarès.
Vous pouvez trouver le détail du palmarès sur Rouge Mémoire.
Ah bien sûr, on invite nos auditeurs à aller sur l'encyclopédie du Stade Rennais, le site Rouge Mémoire que vous menez à merveille. Fabrice, merci infiniment encore d'avoir été avec nous ce soir, Fabrice Pinel, après ce derby Rennes-Guingamp. À bientôt, à l'année prochaine en Ligue 1.
À l'année prochaine, merci beaucoup.
Bonsoir, merci.
Merci Fabrice, bonsoir. Radio Bonheur, il est 19h28, le magazine des déchaînés du football, c'est en direct jusqu'à 20h. On continue de parler de ce match, Pierre, de ce match héroïque des Guingampais.
Oui, un dernier mot, parce qu'on parlait du premier quart d'heure des Guingampais. Là, du coup, on va repasser au son numéro 6, Dominique, celui de Jordan Ikoko, parce qu'il a eu un début de match très compliqué face à Ismail Assar, qui passait quasiment à chaque fois au début du match. Sauf que plus le match avançait, moins on a vu Sarr. Du coup, eh bien, la question a été posée à Jordan Ikoko. Comment avez-vous fait pour limiter son influence?
Bah, c'est vrai qu'au début, on laissait trop d'espace, et après... Avec notamment Marcus Souton, on s'est dit de défendre à deux, et Chris aussi. Donc après, on l'a moins vu dans le match. Et c'est vrai qu'au début, il nous a posé problème, mais après, ça a été, on a su le gérer plus ou moins, quoi.
Oui, et au final, les Guingampais donc n'ont pas encaissé de but face à Ismail Assar. D'une part grâce à Johnson, d'autre part grâce au petit filet aussi, un moment où certains Rennais ont cru au but, mais Assar avait frappé. À côté, 19h29 sur Radio Bonheur.
Christophe est avec nous, Monsieur Mandane.
Eh bien, juste avant d'accueillir Christophe Mandane, Dominique, on va lancer ce que l'on lance à chaque fois qu'il y a un invité de marque sur Radio Bonheur. Un petit récapitulatif de Christophe Mandane à Guingamp.
3-0 pour Le Havre.
Mandane qui va le marquer, mais le temps. Encore, 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 encore. Tête de Mandane, le but historique, Mandane dans le temps additionnel qui va envoyer Guingamp.
peu vu. Allez, qui va pouvoir temporiser un peu. Il va centrer instantanément dans la surface. Fondade, le but de Christophe Fondade. Si peu en réussite depuis des mois et des mois avec Guingamp. Il a touché trois fois les poteaux en deux matchs contre Minsk. Et là, une subtile déviation du pied droit sur ce centre de Claudio Bobu. Mandanda inscrit son premier but européen pour son centième match sous le maillot guingampais.
Attention à ce centre de Jakobsen, second poteau, il y a du monde.
Oh, le but magnifique.
Christophe Fondane qui nous régale.
Et c'est notre invité ex-AG ce soir, Christophe Mandane au micro de Radio Bonheur par téléphone.
Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Alors la question que l'on pose toujours, c'est la première, aux anciens de Guingamp. Que devenez-vous, Christophe ?
Je suis en Ligue 2 Châteauroux maintenant, depuis le début de saison, donc voilà.
Comment ça se passe ?
Plutôt bien, ça va. On est plutôt, on va dire, bien placé pour une équipe qui vient de remonter en Ligue 2. Donc ça se passe plutôt bien.
Christophe, on va maintenant parler, et ça va être le cœur de notre interview avec vous, de vos années à Guingamp. Vous arrivez en avant en janvier 2012, il y a plus de 6 ans. Maintenant, en cours de saison, Guingamp est promu en Ligue 2. Jocelyn Gourvennec fait appel à vous. Comment s'est passée votre arrivée en Côte d'Armor ?
Très bien. Ça c'est, on va dire que avant la trêve de décembre, c'est vrai que j'ai été un petit peu en contact. Enfin, mon agent m'a dit que Guingamp était intéressé par ma venue. À cette époque-là, j'étais à Dijon, qui était en Ligue 1, et moi, je jouais pas forcément. Je faisais des rentrées de match, pas souvent titulaire. Du coup, le projet de Guingamp m'intéressait. Je suis parti 6 mois en prêt. Je suis arrivé au mois de janvier, début janvier à Guingamp.
Et du coup, c'était un prêt. Et ensuite, vous vous engagez dans la durée avec Guingamp parce que vous restez 3 ans et demi finalement en Côte d'Armor.
C'est ça. J'arrive en premier pour 6 mois en prêt. Et ensuite, c'est 6 mois où ça s'est plutôt passé, où j'ai pris du plaisir là-bas. J'ai re-signé un contrat derrière.
Alors, il y a la saison ensuite 2012-2013, celle de la montée. On a entendu tout à l'heure votre but pour la montée. On y reviendra tout à l'heure. C'était contre le Gazélec Ajaccio. Mais avant ce match-là et cette fin de saison-là, il y a une période de 7 mois, Christophe, où vous ne marquez pas un seul but. Vous marquez en septembre lors d'une victoire contre Auxerre et ensuite le trou noir en Ligue 2 jusqu'au mois d'avril parce que vous aviez marqué un but contre Marseille, notamment en Coupe de France. Comment vous aviez vécu cette période de disette, vous, l'attaquant ?
Vous savez, l'attaquant, c'est très compliqué. Il y a des fois où ça réussit, et il y a des moments où on peut tout essayer et ça veut pas rentrer. Après, on va dire que je le vivais plutôt bien parce que l'équipe marchait, on avait des victoires, donc on va dire que quand l'équipe gagne, on se prend un petit peu moins la tête, on va dire. Donc voilà, mais après c'est vrai que c'est quand on passe des longues périodes sans marquer de but, c'est un peu frustrant.
Et je me souviens d'avoir vu une interview de vous à l'époque, je sais pas, ça devait être en janvier, février, où vous disiez « je suis devenu nul ». C'est pas à ce point-là quand même, Christophe, vous n'étiez pas devenu nul non plus.
C'est vrai qu'on se pose des questions, on se dit comment ça se fait, c'est vrai que tout passe par notre tête dans ces moments-là. Et c'est vrai, c'est ce qu'il faut pas faire, quoi, se poser des questions, mais c'est plus fort que nous, on est humain, et c'est vrai que quand ça réussit pas dans ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, c'est compliqué.
Alors arrive ensuite la fin de saison, il me semble que vous marquez 5 buts sur les 4 derniers matchs, notamment un doublé contre Lens lors d'une victoire 7-0, et puis il y a ce but à la 93e minute de l'avant-dernière journée contre le Gazélec Ajaccio, vous reprenez un corner de la tête de Gires, et c'est vous qui propulsez l'en avant en Ligue 1. Est-ce que c'est votre meilleur moment sous le maillot de Guingamp ?
C'est l'un des meilleurs moments, parce qu'il y en a d'autres bien sûr, mais c'est vrai que ce but-là, ça nous propulse, on va dire, en Ligue 1, donc c'est quand même un excellent moment, on va dire.
Quels sont les autres meilleurs moments, Christophe, de votre carrière avec Guingamp?
Bah, il y a la Coupe de France, logique. Ouais. La finale, Coupe de France et les matchs d'Europa League. C'est sûr que c'est des trucs, je pense qu'on n'oubliera jamais. C'était vraiment intense. On a vraiment vécu tous ensemble des super moments.
Est-ce que vous vous imaginiez, lorsque vous êtes arrivé, vous l'avez dit, en simple prêt de Dijon, que ça allait prendre cette tournure-là à Guingamp, que vous alliez vivre de si fortes émotions avec Guingamp, que vous alliez gagner un titre, que vous alliez jouer en Coupe d'Europe avec ce club?
Bah, très sincèrement, non. C'est sûr que quand on signe dans un club, on sait pas ce qui va nous être réservé. Donc, c'était compliqué de l'imaginer à ce moment-là. On était en Ligue 2 quand je suis arrivé. Et on a parcouru beaucoup de chemin. On monte en Ligue 1, on gagne la Coupe de France. Derrière, on fait l'Europa League. Donc, non, c'est vraiment allé très vite et c'était inimaginable au début quand j'ai signé.
Alors après donc votre but contre le Gazélec Ajaccio, arrive la Ligue 1, vous marquez dès le début de saison contre Sochaux lors d'une victoire 5-1, et là encore, disette, rideau, Christophe, c'est le seul but que vous marquez cette saison-là, notamment de la saison de la victoire en Coupe de France. Comment Jocelyn Gourvennec vous parlait, vous essayez de vous remettre en confiance, parce que vous jouiez tout le temps, enfin vous avez joué 32 matchs cette saison-là, quels étaient ces mots pour vous maintenir à flot dans cette équipe?
Ces mots, enfin, à ce moment-là, il n'y a pas forcément de mots. C'est vrai qu'il m'a fait beaucoup confiance. Ça, je peux pas le nier là-dessus. Même, comme vous dites, même sans marquer, il me faisait jouer. Après, il me disait que j'étais, on va dire, en quelque sorte, je me sacrifiais pour l'équipe. Peut-être que je marquais pas, mais j'étais quand même assez souvent à l'origine ou dans les actions. Donc, ce qui fait qu'il me faisait jouer. Et après, il y avait une certaine aussi entente avec Yata Barré cette année-là, où lui, tout ce qu'il faisait, il réussissait. Donc, c'est peut-être ça qui fait que j'ai joué autant, quoi.
Et on a vu, Christophe, des joueurs comme Yata Barré et Beauvu marquer énormément de buts à vos côtés. Est-ce que vous définiriez comme le parfait attaquant de complément pour un duo d'attaque?
Parfait, c'est un grand mot. Après,
très bon.
Bah après, on va dire que c'est vrai que ça, en tout cas, quand j'étais à Guingamp, ça s'est bien marché. Même l'année d'avant, j'avais été avec Anthony Knocker, qui fait une bonne saison aussi, où il marque pas mal de buts, et c'était moi qui étais associé avec lui. Et après ça, il se retrouve en Angleterre. Après, j'ai eu Yata Barré, et avec Claudio, pareil. Donc je sais pas si je suis un très bon complément, mais on va dire que voilà, on a quand même fait de bonnes choses, on va dire.
Avec quel attaquant vous entendiez le mieux, Christophe, que ce soit sur le terrain ou en dehors?
Bah, je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est Claudio.
Et pourquoi?
Bah, je sais pas. C'est vrai qu'on se trouvait plutôt bien sur le terrain, et on avait une certaine complicité aussi en dehors du terrain. Après, je sais pas si c'est le fait qu'on venait tous les deux des îles. Lui parlait le créole réunionnais, donc peut-être que ça peut être joué, mais bon, voilà quoi. Je dis ça, mais sans vraiment le savoir. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup, on a vraiment accroché tous les deux.
Et vous passiez beaucoup de temps ensemble aussi en dehors des terrains, parce que votre complicité, quand on la voyait sur le terrain, on se disait, c'est pas possible, ils sont tellement potes en dehors. Enfin, il y avait une énorme complicité avec lui.
Ouais, c'est vrai qu'on se voyait quand même assez souvent en dehors. Et on habitait tous les deux à Plérin. Donc, ça nous arrivait de passer des soirées ensemble, oui, bien sûr.
Dernière question avant une petite pause publicitaire, Christophe. Parce que, donc, vous passez d'une saison à un but en 2013-2014 à une saison à 11 buts en Ligue 1 la saison d'après. À quel moment s'est passé pour vous le déclic entre ces deux saisons-là? Est-ce que c'est un match, une action, un but déterminant pour vous qui a fait la bascule?
Sincèrement, très très compliqué de répondre à cette question. Comme je vous dis, des fois on a une disette où ça ne veut pas rentrer, des fois tout ce qu'on tente réussit. J'ai continué à bosser après cette saison, j'ai pas lâché, et bon, c'est vrai que ça m'a plus souri l'année d'après, donc mais vous dire qu'il y a eu un déclic, je sais pas, sincèrement, compliqué de répondre.
Parce qu'on se souvient d'un pénalty contre Bordeaux que vous marquez en début de saison 2014-2015. Ça devait être votre premier but de votre dernière saison à Guingamp. Où vous vous mettez à genoux après le but. Et alors, je sais pas si c'est vrai, mais on décelait presque des larmes dans vos yeux. On imaginait que c'était du soulagement, c'était peut-être autre chose. Mais c'était peut-être ce but-là qui vous a libéré, non?
Bah, pour être honnête avec vous, non. Enfin, parce que cette semaine de ce match-là, je marque contre Bordeaux, j'ai perdu deux personnes de ma famille à La Réunion, personne ne le savait. Et ces larmes, c'était plus ça en fait. Mais pas ce que j'avais marqué, mais vraiment, c'était un soulagement aussi pour moi. Ça m'a fait du bien de marquer et c'est vrai que je traversais une petite période un peu compliquée à ce moment-là.
Maintenant, on comprend mieux, Christophe. Vous restez avec nous. Petite pause, réclame, et on se retrouve ensuite pour la suite de cette interview sur Radio Bonheur.
Si votre coiffeur vous demande quelle radio vous écoutez, vous répondez...
Radio Bonheur ! Radio Bonheur !
Les métiers du social recrutent.
Avec 98% de réussite en 2017, les filières du lycée professionnel Xavier Graal à Loudéac sont une valeur sûre.
Tu es en 5e ou en 4e, rejoins un établissement innovant avec le matin, l'enseignement général et l'après-midi, des activités sociales, culturelles et sportives.
Le lycée propose aussi le CAP ou le Bac Pro Service aux Personnes, un accompagnement au CAP Petite Enfance et une formation complémentaire en alternance pour t'aider à choisir ton orientation et définir ton projet professionnel.
Portes ouvertes samedi 10 février de 9h à 13h.
Bonjour monsieur, à la recherche d'une citadine?
Oui, je cherche une Peugeot 208.
Mais quelle chance, cette Peugeot 208 est à 7 990 euros.
Ah non, je ne veux pas d'une occasion.
Mais elle est neuve, et c'est une Peugeot.
Bon, sérieusement?
Ah mais je suis très sérieux.
Difficile à croire, mais chez Peugeot Gémy Saint-Brieuc, votre 208 neuve est à partir de 7 990 euros. Offre soumise à conditions de reprise et sous réserve d'éligibilité à la prime à la conversion de l'État. Conditions chez Peugeot Gémy Saint-Brieuc, rue Chaptal.
Retour des déchaînés du football, c'est le magazine en direct sur Radio Bonheur, jusqu'à 20h.
Oui Christophe Mandane, on va revenir sur la fin de votre aventure avec Guingamp, cette fabuleuse saison 2014-2015. Quel est selon vous votre meilleur match cette saison-là aux côtés de Claudio Beauvu?
Le meilleur match... Moi, j'ai le ce qui me reste en tête vraiment, c'est le dernier match contre Toulouse au Roudourou. C'est ce match-là vraiment où je garde beaucoup de souvenirs, on va dire. Parce que c'est le dernier ou c'était quoi, mais c'est vrai que ce match-là, il était particulier.
Et en plus, vous avez mis les formes, parce que, alors, on l'a réentendu, mais tout à l'heure dans l'intro, mais vous marquez un but. Phénoménal, Christophe, un retourné acrobatique, ça c'est un geste, excusez-moi du terme, mais qui pue la confiance à ce moment-là de la saison, dans un stade plein, après une saison comme celle-là, c'est un but, c'était la cerise sur le gâteau de votre époque guingampaise.
Ouais, vraiment, pour moi, c'était la cerise sur le gâteau, pour l'anecdote, le jour de ce match-là, il y avait mon entraîneur de La Réunion qui était au club, qui était en Bretagne avec un partenariat avec un petit club qui était à côté, là, la Saint-Pierroise. Il était dans les tribunes avec tous les jeunes, tous les enfants de La Réunion qui étaient là. Ils étaient venus voir le match et je marque ce but-là, ce soir-là. Donc, toutes ces petites choses ont fait que c'est ce match-là qui me reste en mémoire.
C'est pour ça qu'en France, on dit papinade et à La Réunion, maintenant, on dit que c'est une mandane, ce genre de geste que vous avez tenté contre Toulouse. Un mot, Christophe, je voulais revenir sur ce moment, le match contre Kiev, le match aller où vous gagnez 2-1, où Kiev pète les plombs en première période avec deux cartons rouges. Et on ne peut pas dire que vous soyez étranger à ce pétage de plomb, parce qu'on se souvient que vous prenez un carton jaune très vite parce que vous poussez un joueur après un coup de sifflet de l'arbitre. Vous en poussez un autre une deuxième fois, puis une troisième fois. On a eu très peur pour vous, à tel point que Jocelyn Gourvennec vous sort à la mi-temps. Vous étiez dans un état second, Christophe, dans ce match?
Non, très sincèrement non. Si je le poussais, c'est que moi... J'avais l'impression qu'il coupait sa course devant moi. En fin de compte, moi, je savais pas quand est-ce qu'il allait s'arrêter. Moi, je continuais pour presser le ballon. Et le défenseur se mettait souvent... Il arrêtait sa course devant moi. Donc, avec l'élan, c'est vrai que je le poussais. Moi, je l'ai vécu comme ça. J'avais pas forcément d'énervement.
sur ce match-là, quoi. Mais ouais, c'est vrai que après avoir revu les images et tout, c'est vrai qu'on pouvait croire que j'étais énervé, mais pas du tout, quoi.
Et non, comment Jocelyn Gourvennec vous a dit qu'il vous sortait à la mi-temps?
Il m'a dit qu'il sort tout simplement.
Il m'a pas,
ouais, il m'a pas, il a pas eu à l'expliquer. De toute façon, il faisait ses choix et on est en quelque sorte un peu obligé de les accepter de toute façon.
Christophe, on vous a demandé quelle était. Oui, pardon, je vous ai peut-être coupé, Christophe.
Non, allez-y, allez, non.
C'est bon. Je vous ai demandé tout à l'heure quel était votre meilleur souvenir. Là, je vous demandais quel est votre pire souvenir. Sous le maillot de Guingamp, un match, une action ratée.
Pire souvenir, ouais, ça devait être un match contre Monaco, à Monaco.
Ah oui, je crois que je vois de quoi vous allez parler.
Non, je suis sûr que non.
Ah bah peut-être pas alors, allez-y.
c'était justement la période où j'ai marqué un but de l'année, là, cette période-là, là. On va jouer à Monaco et je m'en rappelle, c'est Ladislas Bunyama qui déborde et qui me fait un centre. Mais sur la ligne de plus de gardien, plus personne. Et je sais pas, elle me tape le talon et je la mets, et le défenseur revient et reprend la balle. Alors que le but, il était vide devant moi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis senti vraiment très très mal.
Eh ben, j'avais la même image en tête, Christophe, de ce ballon. Ben voilà. Mais bon, on ne vous en veut pas, vu tout ce que vous avez fait après, il n'y a absolument aucun problème. Christophe Mandane. Ah oui, une dernière question. Qu'est-ce qui vous a poussé ensuite, après Guingamp, d'aller aux Émirats? Est-ce que c'était parce que il n'y avait pas de possibilité d'avoir un autre club en Ligue 1, ou est-ce que c'était de manière très compréhensible pour, mettre votre famille à l'abri?
Après la sortie, après cette saison à Guingamp, c'est vrai que j'ai eu quelques contacts en Ligue 1. Après, ce qui m'a freiné un peu, c'était souvent, ils avaient le même discours. Tu arrives à un certain âge, donc on attend, tu es le deuxième ou troisième choix. Ce qui a fait que, ça m'a un peu déçu, on va dire. Que je sois à chaque fois, il fallait que j'attende de voir s'ils avaient la possibilité de faire un autre joueur avant de me faire signer. Et j'ai eu les Émirats qui m'ont contacté, donc après c'est vrai que niveau financier c'était plutôt intéressant aussi, donc c'est vrai que voilà, j'ai fait ce choix là.
Christophe Mandane, on va terminer cette interview par l'éternel quiz ex-EAG. Une minute, un petit peu plus, on déborde souvent, de questions sur votre passage à Guingamp. On insiste, bien sur votre passage à Guingamp entre janvier 2012 et mai 2015. Des questions plus ou moins sérieuses. Et donc, vous avez la possibilité de battre peut-être ce soir le record de notre célèbre consultant, Ladislas Bunyama, qui avait fait 10 points. Christophe Mandane, êtes-vous prêt?
Allez.
Musique en studio. À 10 près, combien de matchs avez-vous joué à Guingamp? Faut aller vite, Christophe.
150, je sais pas.
Ah, c'était 128, pas loin. À 5 près, combien de buts?
50.
Ah, c'était 33. 0 plus 0 égale la tête à...
Ah, Toto.
Bonne réponse. Vrai ou faux, vous êtes le dernier buteur de Guingamp en Coupe d'Europe?
Vrai.
Vrai, vous avez marqué à Kiev. Où se déroulait le match où vous marquez le but de la montée en Ligue 1 contre Ajaccio?
À Guignon.
Bonne réponse. Vous marquez votre premier but à Guingamp contre Nantes lors d'une victoire 2-0. Mais qui était l'autre buteur ce soir-là?
Nocker.
C'était Matisse. Vrai ou faux, c'était ce soir-là le dernier but de Matisse dans sa carrière?
Faux.
C'était vrai. Vous connaissez l'histoire de Toto à la plage?
Non.
Nous non plus. Vrai ou faux, la paire Beauvue-Mandane a marqué plus de buts que la paire Drogba-Malouda?
Je crois que c'est vrai.
C'est vrai, effectivement. Vrai ou faux, vous avez marqué plus de buts sur toute votre dernière saison que lors de vos 3 saisons précédentes combinées?
Pas faux.
C'est vrai. Et dernière question, on veut maintenant la vérité, Christophe Mandane. Avez-vous, oui ou non, fait exprès de mettre un brin à Jonathan Martins Pereira après son but en finale? Parce que le lendemain de la finale, il est arrivé avec un cocard après son but contre Rennes et apparemment le fautif, c'était vous sur ce coup-là.
C'est faux, je ne l'ai pas fait exprès.
Que s'est-il passé?
Il y a un peu de vrai aussi, un peu de vrai, un peu de faux.
Que s'est-il passé alors?
Ben, Il marque ce but en finale et je pense que dans l'euphorie, il a voulu aller voir sa famille directement. Courir, en fait, enfin, il était tellement heureux, il voulait courir partout. Et il est passé sur ma route et à un moment donné, j'avais pas très envie de courir derrière lui sur 50 mètres parce qu'il allait très vite. Donc j'étais obligé de lui faire un plaquage dans les règles. Et c'est vrai que je crois qu'il a dû prendre, j'ai dû lui mettre un coup d'épaule qui fait qu'il a eu un coca.
Viril mais correct. Merci beaucoup, Christophe voilà. Mandan. Oui, merci donc quelques petites réponses. Drogba et Malouda avaient marqué 32 buts, vous avec Beauvue et 44. Et puis vous avez marqué 16 buts sur vos trois premières saisons à Guingamp et 17 sur la dernière saison avec En Avant. Merci infiniment, Christophe, d'avoir été merci avec nous et bonne continuation à Châteauroux.
Je vous remercie.
Bonne
merci
soirée.
Beaucoup.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci.
Au revoir.
Mais tu l'as rencontré où, Julien ?
Sur Mythique. J'ai demandé à la coach virtuelle de me trouver un mec avec un petit grain de folie. Et le premier profil qu'elle m'a proposé, bah, c'était lui. On s'est rejoint pour une balade et on a fait de la balançoire sous la pluie. On était trempés, mais c'était génial.
Les belles histoires commencent souvent par un détail. Nouveau, trouver la personne idéale grâce à la coach virtuelle Mythique.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année.
Allô patron, c'est entièrement cuit.
Pour Lidl, c'est ça?
Ah mais non, pour nous et pour les crevettes patron. En ce moment, pendant la semaine Vitasia, la barquette de 500 grammes de crevettes entières cuites est à 3,99€ au lieu de 4,99€.
Des crevettes entières cuites à 3,99€ la barquette? Oh là, c'est le bouquet.
Ah oui, et 20% de réduction.
On est mal, hein?
Entièrement mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 7,98€ le kilo, élevé en Amérique du Sud, calibre 60-80. Offre valable jusqu'au mardi 13 février. Pour votre santé, bougez plus.
Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de feu vert. Intempéries, route glissante, pour partir sereinement en vacances, qui pense à vos pneus? Moi, évidemment. En ce moment, chez Feu Vert, pour l'achat de pneus Continental hiver, été ou toute saison, jusqu'à 100€ de carburant offert. Et 9 clients sur 10 qui recommandent Feu Vert, c'est ça la patte de l'expert. Et découvrez Mon Contrat d'Entretien, le premier abonnement clé en main pour entretenir votre voiture dès 39,90€ par mois.
Hors compte à la souscription, voire conditions sur feuvert.fr. Bientôt la Saint-Valentin, reste plus qu'à trouver le bon. Encore libre et à temps.
Sur lafourchette.com, trouvez le bon restaurant disponible en quelques clics. Romantique, branché, gastronomique, réservé et tentez de gagner un an de restaurant. Voir conditions et règlements sur lafourchette.com.
Hop là, la dernière ligne droite du magazine des déchaînés du football avant 20h. Un petit mot quand même sur l'équipe de Christophe Mandan sur Châteauroux. Châteauroux fait partie du bon groupe. Pierre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en Ligue 2, c'est très très serré. On a quasiment les 10 premiers qui peuvent encore jouer l'accession, c'est-à-dire la montée en Ligue 1. Parce que Châteauroux, par exemple, qui est 9e, n'a que 4 points de retard. Hein. Rien du tout quand on voit sur le 3e, quand on voit à quel point c'est serré. Alors autant le Stade de Reims est largement devant en Ligue 2, autant pour tous les clubs qui sont derrière, on en a 9 qui se tiennent en très peu de points entre le 2e et Nîmes et Brest qui est 10e. On peut encore y croire à la montée et Châteauroux fait partie de ces clubs.
Ouais, exactement. Même si Brest, qui est juste derrière, joue ce soir contre Reims à domicile en match en retard de la 24e journée. Donc Brest peut repasser devant. Mais oui, ils sont dans le coup, les promus de Châteauroux. Il faut les saluer. À noter que Lorient fait une mauvaise affaire sur sa pelouse samedi. Un match nul, un but partout. Alors qu'en cas de victoire, eh bien, ils auraient été 3e de ce championnat. Les Lorientais de Michael Landreau qui ont plus
encaissé les égalisations. L'année dernière, on a eu une fin de championnat en Ligue 2 complètement folle. Et ça, on prend le chemin cette année. Oui,
on peut revivre la même fin de saison.
Alors, on a 10 clubs qui peuvent monter, c'est incroyable.
Oui, c'était assez incroyable et on souhaite bonne chance donc à l'équipe de Toto Mandan. Toto, c'est son surnom, voilà pourquoi il y avait quelques questions sur Toto dans le quiz tout à l'heure. Est-ce que nous avons Kevin Baudin avec nous au téléphone? Ça va arriver parce que Lannion est en grande forme en ce moment. Tiens, juste avant d'avoir Lannion et Kevin Baudin au téléphone, on va s'intéresser à la Nationale 2, parce que ça jouait ce week-end. Fortune diverse, mais pas de défaite parmi les clubs que nous suivons. 0-0 pour Saint-Malo à Limoges, 11e nul en 17 matchs pour les hommes de Pierre-Yves David. Granville a fait un partout aussi à Boulogne-Billancourt. Granville qui sera sur notre antenne mercredi à partir de 18h, match à 18h30 à Chambly pour les 8e de finale de la Coupe de France. Saint-Brieuc continue sa saison magnifique en gagnant à Lorient B 1-0. Lorient B qui était devant avant la rencontre, but de Pousvin en seconde période qui permet à Saint-Brieuc de se hisser à la 3e place du classement, à égalité de points avec Romorantin, 2e, qui a un match en moins. Et puis Le Mans est largement leader, 8 points d'avance pour Le Mans qui en plus a gagné ce week-end.
Quelle victoire!
10-0 contre Trélissac. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Le premier contre Marella. Le dernier en même temps.
Ouais, mais bon, pour qu'il y ait 10 buts d'écart quand même, quand même, y aller. Ouais, ouais. Voilà, donc 10-0. Lannion donc 3ème, 32 points. 5ème, Saint-Malo, 29 points avec un match en moins. Granville est 10ème avec 22 points. 8 points d'avance sur le Havre B. Premier relégable. En National 3, on salue le beau week-end costar-mauricain avec la victoire de Lannion. Et puis aussi la victoire de Dinan-Léon à La Montagnarde, 2-0. But de Morlan à la 11ème et de Saint-Rimat à la 75ème minute. Dinan-Léon qui est... au chaud, on va dire, à la 8e place dans le ventre mou de ce championnat de National 3 avec 5 points d'avance sur Concarneau B, l'équipe première relégable. Et puis Lannion donc 5e avec 21 points. Lannion qui a gagné 5-0 contre Guichin. Est-ce que nous avons Kevin Baudin avec nous
au téléphone ? Oui, bonsoir. Oui, je suis
bonsoir
là.
Kevin. Que bonsoir. Se passe-t-il à Lannion ? 3e victoire consécutive, on ne vous arrête plus.
Ah ben non, c'est sûr qu'on est dans une bonne période. Après, bon, on était dans une situation un peu compliquée en début janvier, fin décembre, quoi, à la 13. Et ben voilà, bon, après, voilà, on a la réussite qui revient. On marque beaucoup de buts, ce qui ne nous était pas arrivé depuis 4 ou 5 matchs, il me semble. Donc voilà, donc ben, ça fait du bien, hein, ça fait sûr. Et, ben voilà, on est sur une bonne série, il faut continuer, hein, ça, il n'y a pas de mystère. Hein.
Ouais, vous avez gagné 5-0 contre Guichin. Il y avait 2-0 à la mi-temps. But de Dramé à la 31e, doublé de Delgado, 40e, 58e. Baldé, 85e et Makaya, 88e ont embelli encore cette victoire. 5-0, c'est l'une de vos plus larges victoires depuis un très long moment, je crois. Kevin, quels ont été les points très positifs de la soirée de samedi?
Bon bah en première mi-temps, bon après il y a les conditions climatiques qui étaient un peu compliquées parce qu'il y avait énormément de vent, donc on a eu la chance de commencer avec le vent dans le dos, donc ce qui a permis bah justement de pouvoir acculer un petit peu Guichin bah sur son but, et voilà, on a réussi justement sur le peu d'occasion qu'on a de mener au score 2-0 à la mi-temps, et puis bah après c'est sûr que c'est plus facile à gérer quand on mène par 2 buts d'écart. Voilà, mais ce qui a été bien, c'est que tout le monde a tiré dans le même sens. Ça fait 3 matchs où on défend vraiment ensemble et voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'équipe, un déclic qui est là, quoi, qui s'est passé depuis justement la période un peu compliquée. Là, je trouve que voilà, on a joué en équipe et voilà, c'est le vrai bon point positif qu'il faut retenir du match, quoi.
Et c'est ça aussi qu'il faut retenir, ce point-là de cette superbe série depuis le début de l'année 2018, c'est cette solidarité, solidité retrouvée qui explique les nouveaux résultats de Lannion.
Bah c'est ça, et puis on a changé aussi le dispositif tactique, donc avant, et là on est passé sur un 4-3-3 avec une pointe basse, avec un 6 devant la défense, et puis je pense que ça nous permet d'avoir un équilibre voilà, que ça soit défensif et offensif, donc ça que c'est voilà, c'est des joueurs qui se révèlent un petit peu sur certains postes, donc on voit comme Junior Vido qui était plus un excentré, enfin qui faisait jouer plus excentré ou en numéro 10, là il a basculé en sentinelle devant la défense, et puis bah il s'avère que bah voilà, c'est payant parce que depuis 3 matchs il joue à ce poste, et puis avec d'autres joueurs bien sûr autour, mais voilà, ça met un équilibre, et voilà, c'est ça qui je pense aujourd'hui fait qu'on est sur une bonne série.
Est-ce que je me trompe, Kevin, si je dis que le prochain match c'est le derby à Dinan-Léon ?
Oui, dans 15 jours là.
C'est toujours un match particulier, ce Dinan-Léon-Lannion, parce qu'en plus vous êtes passé devant, ils ont longtemps été devant vous et là vous êtes passé devant, c'est vous le favori maintenant, Kevin, de ce match.
Bon, favori.